le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, nous allons voir que le cynisme que l'on retrouve dans la population n'est pas le fruit du hasard. À ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, eh bien cette semaine, nous avons entrepris une série spéciale sur l'effet neutralisant de la propagande sur la société civile. En d'autres mots, nous allons voir comment nous sommes empêchés d'avoir un impact dans la société. Cette série est inspirée d'un ouvrage écrit par Noam Chomsky et Robert McChenney intitulé « Propagande, médias et démocratie ». Le contenu de cette émission nous aidera à comprendre que le désintérêt des gens à l'égard de la politique ou le cynisme de la population n'est pas le fruit du hasard. M. McChenney nous explique dans la deuxième partie du livre que le contrôle des communications a un impact sur le décrochage collectif des citoyens. Oh, il y a beaucoup de grands mots là-dedans. Eh bien, on va essayer de décortiquer ça un peu puis y aller tranquillement. Premièrement, le contrôle des communications. Eh bien, ça a un impact sur le décrochage collectif, donc le décrochage de l'ensemble des citoyens. On voit ça à la page 82 et 83 de son livre. Alors, par définition, les sociétés démocratiques ont l'obligation de respecter les libertés individuelles. Celles-ci ne peuvent s'exercer que dans la mesure où les citoyens sont informés, engagés sur le plan politique et qu'ils participent réellement à la chose publique. C'est ça qui fait une différence. Lorsque justement on est informé, engagé et qu'on participe, est-ce que vous participez à la société civile québécoise? Est-ce que vous y contribuez? Beaucoup de gens y contribuent au travers leur organisation, leur église, par des activités caritatives. Et ça, c'est excellent. Mais est-ce que vous sentez que ça fait une différence dans l'ensemble de la culture québécoise? Et puis, c'est voulu qu'on n'ait pas ce sentiment-là, qu'on a l'impression parfois, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes ont l'impression que oui, les bonnes actions qu'ils vont entreprendre vont avoir un impact sur des individus X, Y, Z qui sont touchés par leur action, mais pas nécessairement un impact direct sur l'ensemble. Et si on avait cette impression-là qu'on avait un impact direct sur l'ensemble, eh bien, effectivement, ça voudrait dire qu'on aurait plus de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va continuer en disant, « Par ailleurs, sans cette garantie, le débat politique peut difficilement aborder les questions fondamentales du pouvoir et de la répartition des ressources, questions qu'il est nécessaire d'inscrire au cœur des débats dans une démocratie. » Mais écoutez bien ceci. Comme l'écrivait James Madison, un gouvernement par le peuple, où le peuple est privé de l'information ou de moyens de l'obtenir, n'est rien d'autre que le prologue d'une farce ou d'une tragédie, peut-être bien les deux. C'est incroyable ça, mesdames et messieurs. Hein? C'est le prologue d'une farce ou d'une tragédie, et peut-être même les deux. Et c'est ça qui est dommage, parce que de la façon que notre système de communication est créé ici, au Québec, eh bien, on n'a pas accès à de la bonne information. On n'a pas accès à de bonnes influences. On n'a pas accès à de sains débats. Si on avait davantage des débats Si on avait accès davantage à des débats qui sont de réels débats. Parce que souvent, on entend des débats, mais c'est à peu près, c'est blanc-bonnet contre bonnet blanc. Ça se ressemble, c'est presque du pareil au même, c'est quelques nuances près, mais au bout de la ligne, on arrive sensiblement au même consensus. Tout est prévisible. On sait d'avance. On sait d'avance, par exemple, qu'au bout de la ligne, s'il est question d'euthanasie, eh bien, on sait que, bon, on va faire croire aux gens qu'il y a un consensus parce qu'on a apporté le sujet d'une telle façon que ça devient indéniable. Le problème, c'est que, et on va le voir un peu plus loin, c'est que justement, il manque de plateforme pour alimenter ces débats. Et ce qu'on dit également à la page 82, c'est que dans les zones de formation politique, ceux qui sont au pouvoir contrôlent toujours le système de communication afin de maintenir leur domination. Ici, dans la société du 21e siècle au Québec, en Amérique du Nord, en Occident, si on n'est pas dans les communications, on n'a pas d'influence. C'est clair que nous devons être dans les communications, et dans, pas seulement dans les communications, mais dans les communications de masse. Là où est-ce qu'il y a des heures de grande écoute, c'est là qu'on doit être. Et on doit être là pour justement amener une saine réflexion, de sains débats, pour mastiquer l'ensemble des sujets qui nous sont proposés et malheureusement qui nous sont souvent imposés. Qu'est-ce qu'on nous dit à la page 83? La maîtrise des moyens de communication fait partie intégrante du pouvoir politique et économique. D'où l'importance, mesdames et messieurs, de réagir sur les tribunes téléphoniques, de répondre aux questions de sondage sur les enjeux sociaux, d'appeler notre député. Vous allez dire, ouais, mais je ne sais pas quoi dire à mon député. Premièrement, c'est facile, vous appelez à Communication Québec, vous leur donnez votre code postal, puis ils vont vous dire qui est votre député, quel est son numéro de téléphone. Vous pouvez même leur demander s'ils n'ont pas un numéro 1-800, un numéro sans frais. Je vais vous donner deux exemples majeurs qui ont fait la différence. Les chants de Noël traditionnels. Vous vous souvenez, au début des années 2000, on avait enlevé la religion dans les écoles et on commençait un processus justement pour enlever tous les repères religieux chrétiens qui étaient dans les écoles. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, puisque maintenant les écoles sont laïques, elles ne sont plus confessionnelles, à part quelques écoles privées, eh bien, on a remis en question le fait de chanter des chants traditionnels de Noël, comme on chante aujourd'hui, là, comme on entend la radio, « Ô sainte nuit, ô nuit de paix », et puis « Minuit chrétien », etc. Et donc, quelques personnes se sont mises à appeler le bureau du ministre. Le lendemain matin, on pouvait voir à la une d'un journal « Oui aux chants traditionnels ». Le ministre de l'Éducation avait dit « Oui », dit « Dans un contexte culturel, oui, on permet aux écoles de chanter, aux écoles qui le désirent, de chanter des cantiques traditionnels. » Mais ça, c'est parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont fait des appels téléphoniques. Les congés fériés, ça l'a passé inaperçu. Parce qu'il y avait un groupe qui avait voulu faire enlever, dans le régime pédagogique du ministère de l'Éducation, là, c'est comme tout le protocole, parce que vous savez, bon, vos enfants ont été, si vous avez des enfants, ils ont été en congé dans le temps des fêtes et ça donne que le congé du temps des fêtes, bien, il y a Noël dedans. Et ce qu'on voulait faire, c'est de ne pas donner l'obligation aux écoles de donner le congé à Noël. Pourvu qu'il y ait 200 congés dans l'année, là, 200 congés qui incluent les journées pédagogiques, donc c'est un congé pour les élèves, mais il y a certains congés que les employés travaillent, le personnel enseignant et d'autres vont travailler. Mais non, la plupart se disent « bof, c'est pas grave ça, on va continuer nous à avoir congé Noël, on est une école publique, puis on va faire comme avant ». Donc ça touchait des gens des autres religions. Mais un certain groupe se sont opposés, puis ils n'ont pas simplement envoyé des courriels ou des pétitions. Ils ont appelé le bureau de la ministre, puis ils ont dit « non, nous on croit qu'on doit garder les congés comme ils le sont, Noël, Pâques et l'Action de grâce doit être un congé férié ». Il doit être obligatoire même pour les écoles privées. Pourquoi? Parce que ça demeure un repère dans notre culture. Un repère comme quoi on y attache une importance, on y attache une valeur et on ne fait pas juste le changer comme bon nous semble. Ça fait partie de la culture. Ça a été fait le mardi et je me souviendrai toujours. Le vendredi, c'est le premier ministre qui s'est levé et dit « on ne touchera pas à ces congés-là ». Quelques appels téléphoniques bien ciblés. Ça fonctionne. Et moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu d'un chef de parti qui me dit « Éric, ce qui a le plus d'impact dans un caucus politique, ce n'est pas les lettres, ce ne sont pas les pétitions, ce ne sont pas les courriels, ce sont les appels téléphoniques. Ça demande juste un peu de mobilisation. » On continue. Le journaliste ne peut pas être complètement neutre et ça ne joue pas en notre faveur, mais ça peut jouer en notre faveur. Voici ce que nous dit M. McChaney à la page 88. « Dans la mesure où le journalisme traite de politique, il donne toujours naissance à des controverses. Le journaliste ne peut jamais être complètement neutre. » Même si on le savait intuitivement, eh bien, là, on a une source pour nous dire « c'est vrai ». Un génie de la communication nous dit, nous affirme que le journaliste ne peut jamais être complètement neutre. Il y a toujours un petit biais quelque part. Mais savez-vous quoi? Le problème, c'est comment est-il confronté si tout le monde pense pareil ou si tout le monde abonde dans le même sens puis dans le même point de vue? Moi, j'écoute les nouvelles, j'écoute des tribunes, j'écoute justement des journalistes d'opinion et ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenez par exemple la question de l'euthanasie. Je sais que j'en parle parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui se brasse, on en parlait encore hier dans les nouvelles. Mais récemment, j'entendais un lecteur de nouvelles qui interviewait un opposant à l'euthanasie puis lui disait « Ne trouvez-vous pas que vous allez à l'encontre du consensus? » Et j'ai trouvé très habile la réponse de cet opposant à l'euthanasie. Il dit « Non, non, il n'y a pas un véritable consensus. » Et là, l'animateur ou le lecteur de nouvelles est revenu à la charge puis dit « Oui, oui, là, il sort les statistiques. » Mais... Puis là, l'opposant répond « Monsieur, on a fait passer dans les sondages puis de la façon qu'on publie justement l'information, c'est qu'on laisse croire aux gens que l'euthanasie, c'est une forme de soins palliatifs. C'est une façon de soulager les douleurs d'une personne qui souffre. Alors, ce n'est pas le cas. On est en train de lui donner la mort. On est en train de le tuer. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Et donc, voyez-vous, il y a un consensus qui est fabriqué. C'est la fabrication du consentement. Et savez-vous quoi? L'équilibre se trouve dans notre participation. C'est ce qu'on voit à la page 90. L'objectif immédiat pour les partisans du changement dans le secteur des médias est d'inscrire à l'ordre du jour des débats politiques cette question trop longtemps négligée et d'encourager la participation de la population au débat. Moi, je rêve à des débats. Je rêve justement à des référendums, je vous l'ai dit, sur les questions sociales. Je rêve à la tribune du citoyen. Ça, je ne vous en ai pas parlé. La tribune du citoyen. Que dans chaque parc, il y ait une tribune avec un drapeau du Québec et dans chaque hôtel de ville, chaque palais municipal, il y ait une salle avec une tribune puis un drapeau du Québec. Et là, on peut inscrire notre nom et parler des sujets qu'on veut et qu'il y ait des sièges ou des bancs pour qu'il y ait un auditoire qui vienne nous écouter et à la fin de la locution, on puisse débattre et échanger. Et donc, n'importe qui pourrait arriver dans un parc et il inscrit, par exemple, « Je viens parler, de la place des écoles confessionnelles à telle heure vendredi soir. » S'il n'y a personne qui vient, ça veut dire que le sujet ne touche pas les gens ou ce n'est peut-être pas un bon moment. Mais au moins, il y a une place pour en parler. Vous pouvez inviter des gens et il y a une dynamique. Il y a dans les cafés, des endroits où est-ce qu'il puisse y avoir des salles de débat réservées qu'on puisse louer, etc. Je rêve à ça, qu'on ait de sains débats, qu'on puisse se parler calmement, avec passion, parfois avec intensité, mais avec respect. Et c'est pour ça que le contrôle de l'information ne permet pas ça. Et voyez-vous, c'est ça qui est le problème et je vous invite à ceux qui ont le livre à lire les pages 96 et 97 à cet effet. Et plus on veut ratisser large, plus on doit éviter de froisser des gens. C'est ça qui est le problème du pouvoir. Et ce que ça fait, c'est que ça réduit les polarisations puis ça nivelle le contenu par le bas. Et donc, mais le problème qui est malheureux, parce qu'on veut contrôler justement les communications, parce que c'est par là que passe le pouvoir, eh bien, qu'est-ce que ça fait? La conséquence, oui, il y a des gens qui sont élus, oui, il y a des gens qui gagnent une majorité, mais on voit une réduction de la société civile, une réduction de l'implication de la société civile, devrais-je dire, et un désintéressement de sa part. Et dans le contexte du désintéressement, eh bien, ça devient tout à fait logique parce qu'on ne laisse pas de place aux citoyens de s'exprimer. Et voici ce qu'on peut lire à la page 90, les propos de M. McChaney. « En aseptisant l'information et en la privant en apparence de tout contenu idéologique, les médias ont rendu les affaires publiques incompréhensibles, déroutantes et ennuyeuses. La fièvre que faisait naître autrefois la politique ne se trouve plus désormais que dans les reportages sur le crime, le sport et les gens célèbres. » C'est incroyable, hein? On a aseptisé l'information et en apparence, on la prive de contenu idéologique. Il dit en apparence parce qu'il y en a un, c'est qu'on fait passer un message par justement la fabrication du consentement. Et lui, l'auteur va parler des États-Unis. Il va dire que cette dépolarisation s'est manifestée aux États-Unis de trois façons. Un, par un déclin général de la connaissance des affaires politiques. Et on le voit par cet humoriste là, qui passe dans les parcs là, puis qui demande des informations, c'est qui le premier ministre, tout ça. Et on le voit même au Québec là, que les gens ne sont pas très informés. Mais c'est quelque chose qu'on remarque également aux États-Unis. Et donc, par un déclin général de la connaissance des affaires politiques, par une baisse de la participation aux élections, on le voit aussi au Québec, et par l'appauvrissement de la portée du débat politique. Et on le voit encore plus au Québec qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on a quand même des chaînes nationales qui divergent et qui ont justement leur ligne éditoriale bien à elles. Il va dire « Quand il s'agit des questions politiques fondamentales, les journalistes ont tendance à épouser les intérêts de l'élite et à éviter de contrarier les pouvoirs établis. » En d'autres mots, ce qu'ils font, oui, ils vont questionner les politiciens, oui, ils vont les défier, mais toujours à l'intérieur d'une enveloppe consensuelle, toujours à l'intérieur de, si on veut, de cette idéologie consensuelle qu'on nous impose, qu'on a fabriquée et à laquelle on doit consentir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un cynisme et un désintéressement. Puis ce cynisme et ce désintéressement vient du fait qu'on a aseptisé le contenu puis on a évacué les débats de la sphère publique. Et puis on se rallie au consensus puis on laisse les choses aller. Et donc, je pense, ça commence par où? Parce que justement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais ça commence par s'informer, ensuite par discuter et de confronter les idées d'une manière respectable. Et déjà là, si on pouvait juste aller dans cette direction-là, on ferait déjà un pas en avant. Mais là, maintenant, c'est déjà le pas en avant. On a un pas en avant à faire, c'est de clore cette émission. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net, leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est aussi disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!